Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le magnifique, le sulfureux, auteur du livre La Nutrition de la Force, Julien Vénesson.
Salut Rémi.
Comme vous voyez, j'essaie de trouver chaque semaine des nouveaux mots pour présenter Julien.
C'est dire à quel point tu es fort en français.
Donc avant de démarrer ce podcast, je voulais passer une petite annonce pour Julien qui est célibataire. Il est juste avant le podcast, il embrassait son chat sur la bouche. Donc si une jeune fille est intéressée par Julien, vous pouvez le contacter via son site ou via les réseaux sociaux, Facebook ou même sur le forum.
Oh mon dieu.
Julien, as-tu des précisions à apporter ?
Non, non, j'ai rien à dire.
Alors, actualité du moment. Donc la semaine dernière, tu m'as dit que tu es descendu 2 jours dans le sud voir Thierry Soucard qui préparait un nouveau livre.
Oui, donc je suis allé voir Thierry Soucard qui est le directeur de la publication du site lanutrition.fr et qui est aussi qui possède les éditions Thierry Soucard qui portent son nom. Et donc je suis allé le voir en fait pour l'interviewer sur son prochain livre à paraître à la fin du mois d'avril qui s'appelle Le mythe de l'ostéoporose et qui est donc la suite en fait de Les mensonges et propagande. Et pour avoir vu le livre, je peux vous dire que ça va vraiment être un super bouquin.
Donc on nous dit comment lutter contre l'ostéoporose entre autres?
Ben non, en fait ça va plus loin que ça. En fait, ça c'est un livre dans lequel il y a pas mal de révélations, et notamment une des révélations qui est que on a fait tout un espèce de on a mis sur un piédestal l'ostéoporose en tant que maladie qui était responsable de la fragilité osseuse, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, quoi. Et c'est vraiment un bouquin très intéressant, bien documenté, et vraiment même dans l'interview, vous verrez que je la mettrai en ligne dans le courant du mois sur mon site, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses vraiment troublantes, donc c'est assez intéressant. Mon site, pour ceux qui connaissent pas, c'est julienvenesson.fr. Et si vous êtes intéressé un peu par l'alimentation et par la santé, c'est vraiment un livre que je vous recommande. En particulier, si vous avez lu Les mensonges et propagande, vous allez tomber sur une nouvelle perle.
Donc, tu sais quand ça sort ?
Bah oui, je viens de le dire, ça sort à la fin du mois.
Ah là, j'étais distrait par un SMS, c'est pour ça.
Ah, encore une de tes fans.
Voilà, on va dire une fan. C'est plutôt, c'est plutôt un élève, mais bon.
Tu n'as que des fans de la gente féminine.
Malheureusement, non. Donc, une autre actualité, je voulais parler en fait de mon nouvel e-book. Donc, j'ai écrit un nouvel e-book. Donc, c'est pas la suite de mes secrets pour prendre du muscle, qui était destiné sur comment apprendre à faire son programme d'entraînement. Donc, je fais la pub régulièrement sur les réseaux sociaux, par email, etc. Donc, déjà 41 témoignages en 4 mois d'existence. Et donc là, je sors normalement lundi. Donc, si tout va bien avec mon graphiste Richard, qui est en train de finaliser le projet. Donc, mes secrets pour sécher. Donc, juste avant l'été, comme par hasard. Donc, je voulais vous dire ce qu'on retrouve un peu là-dedans. Donc, contrairement au premier, là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pas vraiment pour débutants. C'est plus pour les intermédiaires, les confirmés. Alors, il y a un peu toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, combien de temps doit durer le régime? Donc, je mets des exemples avec des photos par rapport aux élèves que j'ai coachés. Pourquoi sécher? Les suppléments qu'il faut prendre pour sécher, donc vous allez revoir mes recommandations habituelles et voir que beaucoup de suppléments qu'on nous vend pour sécher sont de la daube. Donc on va voir aussi comment sécher. Donc je décris environ 10 facteurs différents pour sécher, donc étape par étape. Il y aura aussi des exemples de diètes avec suppléments et sans suppléments, puis on m'a demandé des exemples de diètes donc sans suppléments. Ça parlera aussi d'entraînement, donc comment s'entraîner en période de sèche, donc aussi avec un exemple de programme d'entraînement. Faut-il faire du cardio au régime? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Car en fait, il est tellement long que... Comment perdre du gras localement? Donc en fait, dans ce type en fait, j'ai vraiment... Pour moi, il est vraiment complet. Là, celui-là, j'ai vraiment été très loin dans toutes les questions qu'on pouvait se poser. Donc j'espère le sortir lundi. Donc il y aura une pré-vente pour mes élèves, donc ils seront tenus au courant par email.
Donc, est-ce que c'est un e-book qui peut être lu par les chats? Par exemple, si Akuma veut être beau pour l'été, est-ce qu'il peut lire l'e-book?
Si Akuma sait lire, oui, il peut. Mais à mon avis, déjà, pour le faire sécher, il faut lui raser les poils. Donc j'ai réouvert l'ebook. Il y a aussi mes astuces pour sécher, c'est vrai, j'avais donc je refais un récapitulatif de comment sont passés mes sèches avec mes astuces pour sécher, etc. Et donc après sur le podcast, on va revenir sur une question dont je parle dont on va parler dans le podcast. Donc les règles ensuite sur comment manger après son régime, donc après sa sèche, les règles pour ne pas reprendre du gras tout de suite, donc avec des exemples quantifiés, des exemples de régime. Donc là, je suis vraiment content de cet ebook qui me semble bien bien complet. Donc pour l'instant, je l'ai fait lire à une dizaine de personnes, elles m'ont toutes dit c'est super. Donc voilà, donc j'espère le sortir la semaine prochaine. Donc il sera en vente aussi bien sur Superphysique que sur mon site. Et donc voilà, donc j'enverrai une copie à Julien pour qu'il donne son avis, mais forcément qu'il va être positif vu que c'est moi son conseiller conjugal.
il faut quand même rappeler pour ceux qui te connaissent pas très bien qu'à une époque t'as fait un peu de compétition. Donc tu connais quand même bien aussi.
Ouais, mais j'avais décrit justement, il y en a beaucoup qui oublient sur le site, j'avais décrit en 12 parties mon régime en 2007 pour les compétitions que j'avais fait justement en junior. Et donc c'était vraiment que j'avais trouvé ça vraiment super en fait, où je partageais chaque semaine mon régime, comment je diminuais, je mettais des photos, comment je me sentais psychologiquement, comment je m'entraînais. Et donc c'est en 12 parties sur le site dans la rubrique diététique. Donc c'est vraiment quand je lis ça, ça fait peur. Mais c'était vraiment intéressant quand même. Moi je trouvais ça. Donc si quelqu'un d'autre le faisait par exemple, je trouvais ça vachement intéressant. C'est un peu comme on avait fait avec Cyril et qu'on avait suivi l'année dernière pour la préparation au top de Colmar. Mm-hmm. Donc je vous continue sur une actualité. Donc les photos des t-shirts pour femmes sont faites. Donc normalement ça va être en ligne début de semaine prochaine parce qu'on a un peu de retard sur les commandes vu qu'il y a eu le pont. Donc on attend de tout bien finir pour mettre en ligne. Et là j'attends, donc on a reçu les débardeurs super physiques. Donc comme l'année dernière, j'ai fait deux couleurs, donc noir avec logo orange, parce que le t-shirt noir avec logo orange vous avait bien plu, et avec, j'aime bien toujours le slogan, Be a Better You, et donc débardeur blanc logo orange, et pareil, Be a Better You, donc normalement je vais les recevoir moi vendredi, le temps que je fasse les photos, donc pareil, début de semaine prochaine, donc de toute façon je préviendrai sur les réseaux sociaux et sur le forum de la mise en vente, et donc j'ai refait un t-shirt, également parce que moi je suis plus fan des t-shirts donc pour l'été, donc blanc avec un logo bleu et comme logo qui a comme slogan que j'aime bien aussi, c'est un ami de la salle qui a trouvé, give the best of you, donc vous avez vu mon accent anglais, bon forcément, donc donnez le meilleur de vous, donc aussi dans l'esprit super physique, donc voilà, donc j'espère que ce sera bien en ligne début de semaine prochaine voire milieu de semaine prochaine. Sinon il y avait une dernière actualité, c'est donc Julien, tu donnes une conférence ce dimanche.
Bah, on en a déjà parlé la dernière fois, je crois, mais...
Donc, on voulait faire un petit rappel.
Ouais. Donc, je donne une conférence Porte de Versailles au Salon des Nouvelles Randonnées. Donc, évidemment, le public est plutôt randonneur, mais ce sera le thème que je vais aborder, c'est la diététique de la performance et de la santé. Et ça s'adresse, en fait, à tous les sportifs. Donc, si vous êtes un peu intéressé par le sujet, bah, vous pouvez venir, parce que c'est gratuit. Je crois qu'on est limité à peu près à 180 personnes, comme la dernière fois. La dernière fois, faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient assis par terre. Hein, donc là, je sais pas, le sujet sera peut-être un peu moins sulfureux, mais il y aura peut-être du monde quand même, donc n'arrivez pas au dernier moment. Et voilà, et puis après, je suis disponible après la conférence pour ceux qui veulent poser des questions ou quoi que ce soit d'ailleurs.
Quoi, voilà. Quoi que ce soit, que...
Bah, je sais pas, non, s'il y en a...
Bon, c'est... Veut... Julien, on a compris, c'est pas grave.
Ah non, je pensais pas à ça. Je pensais à ceux qui veulent que je signe un livre qu'ils ont acheté. Bah, je peux le faire après la conférence, par exemple.
on va dire ça.
Ouais.
Ça alors, on attaque les questions du jour. Alors, Julien. Comment choisir ses cosmétiques sans perturbateurs endocriniens et autres merdes?
Ouais, alors moi je suis pas un super spécialiste de toxicologie, et encore moins en ce qui concerne les cosmétiques. Par contre, je me rappelle qu'à une époque, parce que c'est un livre qui est plus très récent maintenant, et je sais pas si on le trouve encore neuf d'ailleurs, il y avait un livre qui était sorti qui passait au crible, c'était une journaliste scientifique américaine, je crois. Ou allemande, je sais plus, qui avait écrit un livre qui passait au crible tous les composés qu'on peut trouver dans ces produits et qui expliquait s'ils étaient dangereux ou pas, etc. Donc le livre, ça s'appelait La vérité sur les cosmétiques. Donc si vous arrivez à le trouver, bah faut pas hésiter à vous le procurer. Et par ailleurs, je sais que maintenant il y a d'autres bouquins qui passent aussi au crible les produits. Donc il y a le guide des meilleurs cosmétiques qui sort chaque année et qui vous oriente vers des produits a priori moins toxiques que les autres. Et c'est vrai que les cosmétiques comportent très souvent dans la composition des produits chimiques qui sont parfois de vraies saloperies.
C'est sympa quand même parce que tu mets ça pour être mieux. Et puis au final, ça te détraque.
Bah ouais. Il y avait eu une étude, si mes souvenirs sont bons, j'ai lu ça il y a longtemps, qui avait fait un lien entre l'application de déodorant et puis les cancers du sein, en fait, qui se développaient plutôt sur le côté, donc assez proche de l'endroit où on s'était exposé de manière chronique à un déodorant. Donc
c'est vrai que ça, c'est un sujet que je m'étais jamais trop intéressé, et c'est vrai que là, ça me donne envie de...
Regardez
ce que j'achète aussi.
Je sens
que je vais me rendre compte que tout est pourri.
Ouais, c'est assez catastrophique. Hein. Et bien en plus, ça concerne pas que les cosmétiques. Je veux dire, tous les produits douche, produits vaisselle qu'on se met constamment sur la peau, très souvent, il y a des substances douteuses là-dedans. Donc, en prenant des produits bio, il y a moins de risques d'avoir des produits douteux. Et pour ceux qui sont vraiment... en difficulté financière, je conseille de faire des roulements de produits. C'est-à-dire de pas toujours acheter la même marque. De fait, comme les marques n'utilisent pas toujours exactement les mêmes produits chimiques, parfois il y a toujours les mêmes qui reviennent, mais souvent il y en a qui changent. Donc le fait de changer, ça permet d'éviter de bioaccumulation de produits chimiques. Donc
si on a de la chance, on aura toutes les maladies.
Ouais, non, je au contraire, on a tendance à limiter les risques en faisant ça, mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas eu d'études là-dessus, hein, ça c'est du...
Donc tu conseilles donc les deux livres?
Pas forcément, l'ancien si on arrive à le trouver, mais sinon je pense que le guide des meilleurs cosmétiques, c'est déjà pas mal, si on veut choisir des bons produits, voilà. Et puis, peut-être aussi... pas besoin de se maquiller à la truelle tous les jours. Hein. On peut être féminine et sexy en étant sans abuser des produits cosmétiques, quoi.
Julien va me donner un indice pour vous, mesdames.
Non, pas d'indice. Non, pas d'indice particulier, mais bon, voilà, je pense qu'avec quelques petites choses bien placées, on peut avoir un très bon résultat sans s'exposer trop à des substances douteuses. Voilà.
Ce qu'il faut, là où il faut, c'est ce que je dis toujours.
Exactement, ouais, exactement.
Allez, question suivante. Alors, j'aime bien, c'est MDT, donc j'avais rencontré à la rencontre superphysique du 2 février, donc qui pose la question, peut-on changer la forme de ses pecs?
Moi, je me demande, est-ce que ça veut dire quelque chose, MDT? Parce que MDG, on sait que ça veut dire quelque chose, mais MDT, ça veut dire quoi?
Bah, je sais pas. Alors, si tu m'écoutes MDT, j'ai oublié ton prénom, bah, tu pourras...
C'est la réponse.
Tu pourras nous dire ce que veut dire MDT. Donc, j'aime bien cette question, parce que ça va me permettre d'enchaîner sur peut-on changer la forme de ses muscles? Donc là, pareil, je reçois souvent des questions du style j'ai un bras plus gros que l'autre, ou j'ai un pec plus gros que l'autre, ou... Et là, dans le cas de MDT, bah, c'est la forme du pec, c'est la forme des deux pecs. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en triangle d'après ce qu'ils racontent. Et donc j'ai d'ailleurs fait un article cette semaine sur peut-on... j'ai oublié le titre de mon article. Doit-on entraîner plus un bras plus gros moins gros que l'autre ou pas? J'ai oublié le titre exact. Donc la forme d'un muscle en fait ne se change pas. Donc si vous avez les pecs en entonnoir comme MDT, bon bah malheureusement il n'y a rien à faire. On va pas pouvoir élargir... le pec, quand j'ai débuté, j'entendais souvent « Tiens, fais des écartés, ça va t'élargir les pecs. » Sauf que, concrètement, le pec va d'une terminaison à une insertion et qu'on ne peut pas la modifier. On ne peut pas, avec les écartés, hop, déplacer son insertion ou sa terminaison. Ça n'existe pas. Donc pareil, souvent, quand on a un bras plus haut que l'autre, c'est souvent qu'on n'a pas la même forme sur les deux bras. Donc si on prend moi, je suis un bon exemple de ça. Mes triceps, par exemple, n'ont pas la même forme. Donc on a l'impression que j'ai un bras qui est plus gros que l'autre suivant la pose. Donc par exemple sur le bras droit, ma longue portion est un peu plus longue. Donc quand je fais un double biceps, ça fait le bras plus gros. Par contre le triceps gauche, comme j'ai le vaste externe qui est plus long, et la longue portion plus courte, et ben ça me fait un bras plus gros en position relâchée. Mais quoi que je fasse, je pourrais jamais allonger mon vaste externe du triceps du bras droit ou allonger ma longue portion du bras gauche. Donc on ne peut pas changer la forme de ces muscles, on est avec cette forme-là. Et il arrive donc malheureusement que des fois, on n'ait pas la même forme de muscle de chaque côté. Donc là, j'ai un petit jeune François qui m'a écrit sur Facebook, qui m'a envoyé une photo de ses pecs, et il n'a pas la même forme de... Il n'a pas la même forme sur les deux pecs, donc il n'a pas de bol, quoi. Et forcément, ça se voit. Moi, je le vois, mais après, ça... Donc pour savoir si la forme de votre muscle, vous pouvez regarder les articles anatomie sur le site Superphysique, donc j'avais fait au tout début. Donc ils sont encore valables, hein. L'anatomie ne change pas du jour au lendemain. A priori, il ne changera pas. Donc, il y a des photos d'anatomie où on voit bien les muscles. Donc, ça va vous permettre de mieux vous analyser et revoir aussi les analyses morphologiques que j'avais fait sur le site pour bien voir la forme de vos muscles et savoir vous analyser. Et donc, comme ça vous permettra de ne pas perdre de temps à essayer de changer la forme de vos muscles parce que ça ne se change pas de toute façon. Donc, pareil, j'ai un autre exemple. Par exemple, sur mes cuisses, bah, souvent, certains ont le vaste externe de la cuisse qui part vraiment en arrondi. Bah, moi, il est droit. Donc ça fera jamais des cuisses bombées, mais bon c'est comme ça quoi, on peut pas. C'est comme les mollets, bah voilà un exemple plus facile, les mollets, bon bah si le mollet est tout en haut, vous n'allez pas pouvoir l'allonger, vous n'allez pas pouvoir le descendre, vous avez juste moins de potentiel musculaire pour les mollets. Donc voilà, on peut pas changer la forme de ces muscles, il n'y a aucun exercice qui va allonger votre muscle, ça n'existe pas. C'est juste du plan. Donc voilà. Je pense que ça répond bien à la question, donc MDT, désolé, mais va falloir le faire avec. C'est pas de bol. Mais bon, c'est... Tu le savais déjà, en muscu, on n'a jamais ce qu'on veut. Alors, question suivante pour Julien. Qui me concerne aussi, j'aime bien cette question. Mangez-vous tout le temps la même chose? Ou avez-vous prévu des aliments alternatifs, histoire de garder le moral?
Donc c'est une question pour nous deux.
Ouais, je te laisse commencer.
Bah, moi je mange des croquettes, donc je partage avec Akuma.
Oh putain, le mec.
Non, je mange pas toujours la même chose, mais c'est vrai que j'ai des aliments qui reviennent beaucoup. Bah c'est principalement parce que je les aime beaucoup au niveau du goût. Donc pour ne rien cacher, il s'agit du poisson du type saumon, aigle fin parfois aussi. Et puis les œufs entiers, et puis tout ce qui est crucifère, j'adore le brocoli, ce genre de choses. Donc ça revient de manière très très fréquente dans mon alimentation.
Est-ce qu'on peut dire qu'en fait que ces aliments, comme tu les aimes bien et que tu les manges assez régulièrement, en fait ta diète te saoule pas en fait?
Ah non.
En fait c'est facile pour toi de manger pratiquement tout le temps la même chose.
Bah, je mange pas exactement tout le temps la même chose, mais globalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent très fréquemment. Mais en fait, c'est un petit peu comme tout le monde. Si on pose la question aux Français moyens dans la rue, qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Bon, bah, il va te dire qu'il mange du pain avec de la confiture, enfin, je ne sais quoi. Et si tu lui demandes depuis combien de temps il mange ça, la plupart des gens, ils vont te dire, bah, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Donc, la plupart des gens mangent toujours la même chose. Sauf le midi parce que ils vont au restaurant ou dans une cafétéria où c'est pas eux qui préparent, mais quand ils rentrent chez eux le soir aussi c'est pareil. Rares sont les gens qui travaillent et qui ont le temps de faire de la grande cuisine et de changer de menu très fréquemment. Ce que font pas mal de gens qui sont dans le milieu sportif comme nous, c'est de préparer leur repas le week-end. Donc ils s'octroient un peu de temps pour cuisiner et de fait ils arrivent à un peu avoir des choses un peu plus variées. Mais sinon voilà, donc pour moi l'alimentation c'est pas une contrainte, et puis l'alimentation ne doit pas être une contrainte, ça doit être des habitudes qu'on se crée selon ce qu'on veut, hein. C'est quand même
important, on en avait parlé, j'avais fait un petit article à un moment, t'avais justement, il y a un petit moment, t'avais confirmé ce que je disais, en fait faut quand même que ce soit en fonction des goûts de la personne. Par exemple, moi, je sais que le fromage, par exemple, manger du parmesan, bah, si j'en mange pas pendant un moment, ça va vraiment me manquer, quoi. Je vais y penser, et puis je vais tout bouffer. Alors, si t'en mets un petit peu tous les jours, par exemple, et bah, ça passe sous sol. Donc là, comme par exemple, tu disais que t'aimes bien les brocolis. Alors, je pense pas que les brocolis te manquent si t'en manges pas.
Ah si?
Ah donc voilà, donc bah, ça c'est vrai ou c'est une connerie?
Ah non, c'est vrai, si.
Ah bah voilà, bon bah voilà. Donc en fait, faut quand même qu'il y ait une petite notion de plaisir pour pouvoir manger donc régulièrement la même chose, parce que de toute façon on arrive souvent à manger la même chose, mais si on arrive à se faire plaisir, en fait, on se lasse pas de ses repas et ça passe un peu tout seul quoi. Pareil, il y en a qui me disent j'adore le chocolat. Bah rien n'empêche de manger 2 carrés de chocolat par jour quoi. C'est pas celui de l'introduire dans la diète, de compter et puis voilà. Mais ouais. Donc pour rebondir là-dessus, on n'en a pas parlé, mais donc Julien est aussi le co-auteur du livre L'assiette de la force.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est un livre de recettes destiné aux pratiquants de musculation. Et donc
qui... aux sportifs, hein, plus généralement.
Ouais, c'est vrai. J'ai oublié qu'on est sur un site de musculation, donc aux sportifs. Et donc où il y a plein d'idées de recettes dont vous pouvez vous inspirer en adaptant aux quantités que vous devez prendre suivant votre alimentation pour varier votre alimentation. Après, c'est sûr
que... C'est-à-dire que pour chaque recette, vous avez un calcul qui est indiqué à côté avec le nombre de pourcentages de glucides, lipides, protéines par portion. Vous avez des variantes, prise de masse musculaire, régime, etc. Et puis, vous pouvez adapter aussi en fonction de vos intolérances. Si vous avez des intolérances aux protéines de lait et quand c'est possible de remplacer par autre chose, on l'a indiqué. On a essayé de faire quelque chose d'assez universel qui puisse convenir à tout le monde. Voilà. Voilà. Non, ce qui est certain, c'est que l'alimentation, ça doit pas être une contrainte. De toute façon, si c'est une contrainte trop importante de bien manger, ça tiendra pas dans le temps.
Voilà, si vous aimez pas le riz, bah mangez pas de riz.
Oui, mais après, il y a un moment où il faut aussi savoir s'éduquer. Parce que si on a acquis de mauvaises habitudes alimentaires à cause de l'environnement, ce qui est souvent le cas quand même, puisque la plupart des gens ne mangent pas très bien. On peut aussi avoir acquis des mauvaises habitudes à cause de nos parents qui mangeaient peut-être pas aussi bien que nous. Il faut savoir changer ses habitudes et ça se fait pas forcément du jour au lendemain, ça se fait pas forcément facilement. Donc faut savoir, comme tu dis, y aller un peu progressivement, garder un peu des choses plaisir qu'on aime bien et puis progressivement s'orienter de plus en plus vers ce qu'on décide soi, créer sa propre identité alimentaire et pas être dépendant de finalement ce que la société a décidé pour vous. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Quand on quitte le domicile familial, en fait, on mangeait ce que nous donnaient nos parents. La plupart du temps, c'était pas nous qui prenions l'initiative de dire « Bon, bah, ce soir, on mange ci, ce midi, on mange ça. » Donc, on était sous influence. À partir du moment où on devient libre, on est en mesure de se recréer tout ce qu'on veut. Voilà.
Ça fait plusieurs fois que tu réagis sur cette notion d'éducation.
Bah, oui, je trouve que c'est très intéressant. Que c'est la psychologie alimentaire, c'est vraiment très intéressant. J'ai consacré un chapitre à ça dans mon prochain livre là qui sort normalement, hein, enfin si tout va bien au mois de mai. Et parce que je trouve que c'est très intéressant et puis c'est fondamental dans la réussite du changement justement. Si on n'a pas pour certaines personnes l'alimentation ça n'a pas d'importance. Ils pourraient manger des pizzas ou des brocolis, ils s'en fichent. Pour eux c'est juste voilà. Mais pour beaucoup non. L'alimentation ça a aussi un côté plaisir et aussi beaucoup de choses à tenir en compte. Et dans ces cas-là, si on n'a pas une bonne méthode, on peut être facilement gêné dans sa démarche de changement, que ce soit pour des objectifs santé ou performance, et ça c'est problématique. Il faut donc ça me semble vraiment quelque chose d'important.
Non mais je plus sois ton avis, Julien.
Ça va alors.
Mais pour continuer vite sur la question, c'est pour manger suivant ses goûts, après, tout comme tu dis, en étant assez éduqué. Pour savoir quoi manger et que ça reste assez sain, donc un compromis entre c'est sain et c'est bon quoi. Après forcément on dit pas que c'est facile de changer ses habitudes, mais après tout dépend, si vous le voulez vous pouvez. Comme je le dis toujours.
Oui, c'est un peu vrai.
Alors, on a fini pour cette question, Julien, ou tu voulais rajouter quelque chose?
Bah non, moi c'est bon.
Alors, question d'entraînement, j'aime bien cette question aussi. Tiens, y a que des bonnes questions que j'aime hein, ce soir. Alors, l'introduction de microcycles de récupération est-elle intéressante pour provoquer une meilleure surcompensation et éviter le surentraînement ou bien est-elle superflue? Donc, ceux qui sont habitués des planifications de powerlifting sont habitués à ces phases de récupération, par exemple, pendant une semaine. Après X semaines intensives où on est monté sur les pourcentages, etc., avoir une semaine un peu de récupération active, donc qui peut concrétiser par exemple sur le papier sur tous les mouvements à 50% en série de 10 pour récupérer, etc. Donc moi-même et même sur mes élèves, en fait, cette notion de microcycle, de repos relatif est présente, parce que je pense qu'on peut pas être tout le temps à fond. Il y a forcément un moment où on va coincer, où on va arriver au bout de sa limite actuelle, et où il va falloir, donc c'est par exemple cette notion de cycle, où on va repartir plus bas, et ce qui va constituer un repos relatif en fait, parce qu'on va partir de bas sans trop forcer, et ce qui va faire pendant quelques semaines qu'on va récupérer, reprendre de la marge, reprendre confiance, se remettre dans de bonnes conditions pour progresser, et donc ça permet en fait de reprogresser après, de remonter un peu plus haut. Donc oui, je suis pour l'introduction de microcycles de récupération, donc active, pas de récupération sans rien faire, qui je pense ne sert à rien, est une perte de temps, mais de la récupération active. Donc on voyait par exemple toujours dans le powerlifting, donc dans le bouquin de Marc Bouillot, donc qui s'appelle La Force Athlétique. Donc je crois que c'est toutes les 4 semaines il y a un microcycle de récupération. Moi après sur moi-même, sur mes élèves, ça intervient un peu plus longtemps après, donc en moyenne toutes les 8-10 semaines. Et après il y a bien 3-4 semaines qui sont un peu de repos relatif, mais bon, ça dépend de la période, si on est au régime un peu moins. Mais donc ouais, je suis plus pour une variation de l'intensité au fil des mois et de l'année pour mieux récupérer. Sinon forcément on finit en surentraînement et on progresse plus et puis on se blesse et puis après c'est infernal.
Ouais.
Donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à la question.
Ouais, c'est pas mal.
Qu'en pense Akuma? Akuma me valide-t-il?
Bah écoute, là il a bagué. Donc c'est que t'as pas encore satisfait sa majesté.
Alors, dernière question pour ce soir. Pour se booster, faut-il mieux prendre de la tyrosine ou de la caféine?
Alors, faut-il mieux manger des poires ou des pommes? C'est un peu ça la question. C'est deux choses différentes, quoi. Donc, en fait, ce qui marche vraiment bien, c'est le mélange des deux. Justement, parce que ça n'agit pas de la même manière. Donc, donc moi, je conseille de prendre les deux en même temps. La tyrosine, ça va avoir tendance un peu à accélérer la production de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui participe à l'action, quoi, à l'envie. Donc c'est très bien. Et puis la caféine, ça va plutôt agir au niveau cellulaire, on va dire. Donc c'est pas exactement la même chose. Ça fonctionne au niveau de ce qu'on appelle les récepteurs à adénosine. Donc ça a vraiment rien à voir avec la tyrosine, quoi. Mais les deux ensemble, ça va vraiment bien. Parce qu'il y a on a un petit coup de fouet de la caféine qui va permettre de quelque part de déclencher un peu l'effet de la tyrosine. Mais d'ailleurs, je suis quasiment certain que ça fait partie des associations que je conseille dans l'article Les secrets diététiques de la force, qui est sur ton site, Rudy, et qui est un article qui explique comment fonctionne la force sur le plan nerveux. Et puis ce qu'on peut faire sur le plan alimentaire, sur le plan de la supplémentation. Donc peut-être conseiller à ce lecteur de s'y reporter pour avoir des informations plus détaillées, parce que je présente plusieurs associations de ce type qui fonctionnent un peu en synergie et qui donnent de bons résultats.
J'en profiterai pour dire que la tyrosine et la caféine sont en vente sur la boutique Superphysique.
Ah oui. Mais ouais, les deux c'est bien. Moi je pense que tout seul, chez la plupart des gens, la caféine est plus efficace que la tyrosine seule. Dans certains cas, la tyrosine va être mieux, mais les deux en même temps, c'est vraiment mieux. De toute façon, c'est pas la caféine, ça coûte rien. La tyrosine.
Ouais, ouais, ça coûte que dalle les deux.
Ouais, voilà, c'est ces deux produits.
C'est pas ce qui rend riche.
Qu'on n'utilise pas beaucoup en grande quantité, donc bon, je pense
que c'est assez rentable.
On peut
en acheter, ça dure longtemps, et puis je crois que ça coûte 10 euros. Et ça coûte pas très cher. Puis c'est vrai que quand on prend de la caféine, on le sent tout de suite.
Bah oui, c'est ça. En fait, la caféine va avoir un effet un peu distinct de la volonté. C'est-à-dire que si tu es un peu mou, tu vas sentir quelque chose qui va se produire. Alors si tu prends de la tyrosine, par exemple, et que tu vas te coucher, bah, ça va pas t'empêcher de dormir. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, ouais, bah...
Par contre, si tu te mets à t'activer, à bouger physiquement ou intellectuellement, là, la tyrosine va rentrer en action. Parce qu'elle va t'aider à produire un neurotransmetteur qui participe à cette action. Donc du coup, tu deviens plus alerte ou plus éveillé, et du coup, c'est là que ça se ressent. Donc c'est pour ça que les deux, en même temps, au niveau psychique, ça a un double rôle.
Autant dire qu'après, t'es invincible, si tu prends les deux.
Ah ouais, minimum, ouais. Ouais, ouais.
Faudrait faire un test sur les chats, d'abord.
Ah non, non.
Faudrait que tu testes sur Akuma.
Il va mourir.
C'est comme il dort tout le temps.
Ben, ce qui est marrant sur les chats, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui ont des effets très très pas du tout similaires à ceux qu'on observe chez l'homme. Hein. Par exemple, la valériane que tu dois connaître, donne
pour dormir.
Voilà,
pour
qui nous détend. Et ben donne de la valériane à un chat, ça le rend dingue. Il devient hyperactif. Il devient fou quoi.
D'ailleurs, je ne préviendrai pas la SPA que tu fais ça.
Non, non, mais je pense que c'est pas, j'ai pas fait sur mon chat, mais je pense que c'est pas très bon de leur donner ça, surtout à dose considérable. Mais la valériane chez le chat, c'est un stimulant et à mon avis, ça lui fait pas du bien au cerveau. Donc c'est complètement l'inverse de l'homme, quoi. D'ailleurs, à beaucoup d'égards, le chat se différencie de l'homme. Hein. Donc voilà.
Donc, on a fini pour ce soir, donc je voulais faire un récapitulatif, parce que la personne qui devait être là ce soir m'a posé un plan.
Ah, alors donne-nous son nom et on va aller chez lui.
Non, non, pas besoin. Mais donc, je suis un peu perdu dans ceux qui voulaient participer ou pas, donc ce qui serait bien, c'est que ceux qui veulent participer au podcast m'écrivent, et ce coup-ci, je noterai directement sur un calendrier qui participe quand, comme ça, ce sera clair, et puis il y aura pas de... On ne sera pas à 3 avec Akuma, on sera 4. Plus on est trop, plus on rit, hein, forcément.
Surtout qu'en plus, Akuma, bon, je veux pas dire du mal, mais c'est vrai qu'il participe pas beaucoup, quoi.
Bah ouais, il faut que dormir en boule sur le lit.
Exactement.
Voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire, et donc je prendrai le calendrier, puis on fixera une date pour tous ceux qui veulent participer. Donc comme ça, vous pourrez poser vos questions en même temps, donc c'est cool. Et donc, comme d'habitude, bah, pour vos questions, il y a le forum, rubrique entraînement, et où vous pouvez toutes les noter, et donc on s'amuse, comme vous voyez... comme des fous à y répondre, donc n'hésitez pas, même les questions les plus farfelues, on y répond. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir, donc merci Julien le Magnifique d'avoir participé au podcast.
Avec plaisir mon cher Rudy.
Julien, est-ce que, j'ai une question.
Oui.
Es-tu roux ou pas ?
Pardon ?
Est-ce que tu es roux ?
Non, je ne suis pas roux.
Ah bon ?
Je suis blond vénitien. Donc pour ta culture, le blond vénitien, c'est un mélange de blond et de roux.
Ah, donc t'es pas roux-mout ?
Non, je ne suis pas roux-mout. D'ailleurs, tu le sais très bien puisque tu m'as déjà vu.
Ah merde. Bon voilà, ce sera la question de la fin. Donc voilà. Sur ce, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
À la prochaine.